Okapi
sur 103 FM.
Okapi.
Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 12h. C'est parti pour un nouveau journal sur Radio Okapi. Concertation initiée par le président Félix Tshisekedi dans les états-majors des partis et regroupements politiques. Les réunions se succèdent ici à Kinshasa en vue de peaufiner les stratégies de repositionnement. Les détails dans ce journal. Les casques bleus de la MONUSCO sont engagés aux côtés des FARDC pour mettre les miliciens de la CODECO hors d'état de nuire dans la périphérie du Bounia. Les habitants de la ville saluent ces interventions onusiennes qui ont permis d'éloigner les menaces de ces assaillants. Notre invité ce midi, c'est le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kaungia, a assisté hier lundi à Likasi au lancement de la première production de la chaux par la grande cimenterie du Katanga. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, Mimi Kindou est sur les manettes. Cinq jours après l'annonce par le chef de l'État des consultations politiques pour la formation d'une union sacrée de la République, jusqu'à présent, les lieux et les modalités du déroulement de ces consultations ne sont pas encore connus. Mais l'annonce de Félix Tshisekedi Tshilombo suscite des réactions de la classe politique et de la société civile qui soutiennent ou pas la démarche du chef de l'État congolais. Dans les états-majors des partis et regroupements politique, les réunions se multiplient afin de peaufiner les stratégies de repositionnement face à ces consultations politiques qui pointent à l'horizon. N'est-ce pas, Michel Kifindangoy?
C'est depuis l'annonce jeudi dernier par le chef de l'État de son adresse à la nation que le Fonds commun pour le Congo multiplie des rencontres stratégiques. Ce lundi, par exemple, son autorité morale Joseph Kabila a réuni à Kingakati les responsables de tous les regroupements politiques membres du FCC. L'objectif étant de renforcer la cohésion au sein de cette coalition et consolider ainsi la majorité parlementaire, renseigne l'un d'eux sous couvert d'anonymat. Pour lui, un consigne leur a été donné d'observer la discrétion, de peur de dévoiler leur stratégie. Le FCC, sûr de consolider sa majorité parlementaire, est disposé à appliquer la cohabitation en cas de rupture de son alliance avec les CASH, ajoute notre source. Joseph Kabila va également rencontrer tous les députés et sénateurs membres du FCC afin de les fidéliser, a-t-il renseigné. Du côté Cap pour le changement, on estime que les consultations avaient déjà eu lieu dans l'informel avant même l'annonce du chef de l'État. Le camp Lamuka, visiblement serein, multiplie des réunions stratégiques. Pour la plupart des cadres de l'opposition, Lamuka ne peut soutenir la démarche du chef de l'État que s'il est sincère et le fait uniquement pour l'intérêt supérieur de la nation.
Michel Kifindangoy sur Radio Okapi. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo est à Brazzaville depuis hier lundi où il participe aux festivités du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville. Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Inris Déby Itno du Tchad et Paul Biya du Cameroun sont de la partie. Le Gabon est représenté par son premier ministre Christine Osuka et la France par son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Chacun d'eux prendra la parole au colloque qui s'est ouvert ce mardi au Palais des Congrès de Brazzaville. Au Nord Kivu, pendant ces temps, les organisations de la société civile de la thématique Bonne Gouvernance saluent l'initiative du chef de l'État congolais relative aux consultations annoncées pour cette semaine à Kinshasa. Cette plateforme propose par ailleurs que les acteurs de la société civile ne fassent pas partie du futur gouvernement. Leur place, ajoute-t-elle, est à la tête des institutions d'appui à la démocratie. C'est comme nous l'explique ici Étienne Kambalé, coordonnateur de cette organisation au micro de Bernard Didier.
C'est une bonne chose, ça permet à ce que le chef de l'État puisse avoir la marge de manœuvre pour mieux prester pour l'intérêt de la population du Nord Kivu en particulier. D'autant plus que nous, du Nord Kivu, nous avons vu que réellement, il avait des difficultés pour avancer sur certaines questions. Et nous pensons que c'est vraiment important que cette consultation se tienne et qu'il y ait une autre majorité qui doit être définie pour mieux gérer la République démocratique du Congo. Nous aimerions que nous ne puissions pas voir des acteurs acteurs de la société civile dans le gouvernement. Nous aimerions que les institutions d'appui à la démocratie comme la CENI, la CNDH et les autres institutions d'appui à la démocratie soient dirigées par des acteurs de la société civile pour essayer un peu de donner une différence de la façon dont la République a été gérée pendant les 18 ans que nous avons observés.
Et puis, au regard des moments difficiles, la RDC a besoin d'une nouvelle orientation politique pour des changements capables de sortir le pays du marasme dans lequel il est plongé. C'est la réaction du président du Parti national pour la réforme. Le PNR dit soutenir les consultations politiques initiées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et qui constituent, selon lui, un pas vers la bonne direction. Delphin Bouguigui-Kiouboua invite cependant la population à demeurer vigilante autour des trois questions fondamentales qui doivent être prises en compte dans ces discussions. Il le dit à Tati Mapoukou.
Le bilan médiocre du gouvernement actuel pousse le président Félix à lancer des consultations qui pourront mettre fin à la coalition, car cette coalition a déjà montré ses limites. Cependant, le Parti national pour la réforme invite le peuple congolais à la vigilance en termes de trois petites questions ci-dessous. Quelle est la volonté politique pour des consultations inclusives capables d'apporter des solutions socio-économiques sur la table? Quelle est l'orientation politique qui sera issue de ces consultations pour rétablir la paix et la sécurité durable au Congo et surtout à l'est du pays? Pourquoi le discours du chef de l'État, précédé par la prestation de serment de juge, ne pouvait intervenir qu'au milieu du débat national sur l'affaire Minembwe? Le parti PNR demande au peuple congolais de rester vigilant car l'étape suivante est décisive.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. En Ituri, les casques bleus de la MONUSCO sont engagés depuis samedi dernier au combat aux côtés des FARDC pour mettre hors d'état de nuire les miliciens de la CODECO dans la périphérie de Bounia. D'autres soldats de la paix sont déployés à l'entrée de la ville pour empêcher l'incursion de ces assaillants en vue de protéger les civils. Les habitants accueillent avec satisfaction ces interventions de la mission onusienne qui ont permis d'éloigner les menaces de cette milice dans la ville. Pour en parler, retrouvons à Bounia Isaac Remoyope.
Des hommes de troupes de la MONUSCO et des équipements, notamment des chars de combat, ont été dépêchés samedi à la périphérie de Bounia pour soutenir les forces loyalistes. C'était après l'attaque des assaillants de la CODECO contre des positions des FARDC vers Délé à 7 km de Bounia. Des sources de la MONUSCO indiquent qu'une patrouille de la MONUSCO a échangé des tirs avec ces miliciens qui brûlaient une maison. Une unité d'intervention rapide des soldats de la MONUSCO a été envoyée en soutien à la patrouille pour empêcher l'incursion de ces miliciens au centre. Entre-ville. Un hélicoptère armé de la MONUSCO survole presque chaque jour la zone pour dissuader toute nouvelle action de ces rebelles dans la ville. Cette présence des casques bleus a encouragé de nombreux habitants des localités de Délé et Fichama de regagner leurs milliers. Par ailleurs, des éléments de la police de la MONUSCO organisent des patrouilles autour des camps des déplacés à Bounia pour rassurer ces personnes qui sont déjà traumatisées par les exactions de la milice CODECO. Le gouvernement provincial souhaite que cette collaboration soit renforcée pour la stabilisation de cette province où différents groupes armés sont actifs. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
On reste en Ituri où les affrontements se sont poursuivis hier lundi jusqu'au soir vers Nguala dans les escarpements du Mont Bleu à environ 17 km au sud de la ville de Bounia. Des sources militaires indiquent que l'armée était en train de pilonner les positions des miliciens de la CODECO qui tentaient de se réorganiser dans cette zone après avoir été délogés dans leur bastion des Équerrés. L'objectif, selon l'armée de la RDC, est de libérer la population qui est prise en otage par ces assaillants. À Bounia, Martial Kizébiamungu.
C'est présentement vers Nguala, en passant des Équerrés dans le secteur de Walindu Tati, que des combats se sont déroulés entre le FARDC et les assaillants de la CODECO de la faction armée de libération du Congo ALC. Selon des sources militaires, l'armée est en opération de ratissage dans cette zone où les miliciens qui ont été délogés de leur bastion des Équerrés se sont retranchés en prenant comme bouclier la population locale. D'après la même source, les forces loyalistes cherchaient à libérer cette population composée essentiellement essentiellement des femmes et des enfants. Lundi, les FRDC ont pilonné plusieurs positions des assaillants qui sont en débandade de Andringi, Zalibiti et Mbeti. Des détonations d'armes lourdes et légères étaient de nouveau entendues vers Délé à la périphérie sud de Bounia. Ces affrontements ont entraîné une nouvelle vague de mouvements des populations dans ces entités vers Kontoni, à au moins 10 km de Bounia sur la route principale des Kassini. Les porte-parole des FRDC à Ituri promet de donner les bilans de ces combats dans les heures qui suivent. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite à Beni au Nord Kivu des enquêtes sur l'attaque de la prison centrale de Kangwayi il y a quelques jours. Cette attaque avait occasionné l'évasion des milliers de détenus, parmi lesquels des rebelles ougandais de l'ADF et des miliciens Maïmaï. À ce jour, après l'arrestation de certains officiers des FRDC, les enquêteurs de l'auditorat militaire supérieur près la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu s'emploie à retracer les faits pour mieux comprendre les événements. Explication de Martial Papi Mukeba.
Les premiers éléments de l'enquête, selon des sources judiciaires, montrent que la prison centrale de Kangwayi de Beni a été attaquée entre 3h45 et 5h20 heure locale. Un fait troublant, les assaillants s'étaient servis d'un groupe électrogène pour alimenter en courant électrique une mélèze qu'ils ont utilisée pour couper les cadenas des déportés de la prison. L'attaque va durer environ 1h20 jusqu'à l'évasion de plus d'un millier de détenus sans aucune intervention ni réaction des militaires et policiers commis à la garde de cette prison centrale. Bien que la région de Beni soit surmilitarisée, durant l'attaque, aucun renfort de l'armée ou de la police n'a été envoyé sur les lieux pour la riposte. Jusqu'à hier, les enquêteurs poursuivaient l'audition de certains officiers FRDC pour retracer les faits et établir la responsabilité des uns et des autres dans ces dysfonctionnements considérés par certains comme voulus. Selon des sources sécuritaires, ces enquêtes risquent de toucher plusieurs officiers des FRDC et de la police pour sans doute des complicités internes. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Santé à présent. Recrudescence du choléra au Kasaï oriental. Près de 70 cas, dont 6 décès, ont été enregistrés la semaine dernière. Annonce faite par le chef des divisions provinciales de la santé vers la fin de la 42e semaine épidémiologique. D'après le docteur Bonheur Chitekou, l'épidémie touche actuellement les zones rurales de Chitengue et Kansansa dans les territoires de Chilengue. Tandis que sur la ville de Mbujimayi, la zone de santé de Mouya est celle la plus touchée. Il ajoute que le manque d'endroits de prise en charge des malades et la désinfection des ménages touchés ne facilitent pas la prise en charge. Il a été joint par Esther Dalafina.
Il faut dire que la semaine épidémiologique 41e, nous avions eu à enregistrer 41 cas avec 0 décès. Là, il y a beaucoup plus la zone de santé de Mouya qui était touchée. Mais à la 42e semaine épidémiologique, on a eu enregistré 71 cas avec 6 décès qui proviennent de la zone de santé de Chitengue. Maintenant, ceci, c'est avec la zone de santé de Kassansa. Il y a eu enregistré plus de cas. Et il faut noter qu'il y a eu une dame qui provenait de la zone de santé de Mouzumba, qui a eu à faire la maladie pendant qu'elle était au champ. Ce qui a fait qu'il y a eu une aire de santé qui a été plus touchée dans la zone de santé de Kassansa. On a eu enregistré 118 cas jusqu'à ce jour avec 10 décès. Mais les mesures sont en train d'être mises en place. Il y a eu quand même des cas qui sont en train de diminuer. Ce sont les conditions de prise en charge qui nous posent des problèmes pour l'installation des points SRO et aussi la désinfection des ménages touchés. C'est ce que nous manquons.
Dans un autre chapitre, les opérateurs économiques redoutent des manques à gagner suite à l'effondrement du pont jeté sur la rivière Kasaï. Ils sont contraints de recourir au système D pour faire passer leurs marchandises d'une rive à l'autre de cette rivière qui sépare Chikapa en deux. Pascal Katou, membre de l'association des commerçants de Chikapa, appelle à l'intervention rapide des autorités pour permettre aux commerçants d'écouler à nouveau leurs marchandises. Il a été joint par Joël Bofengo.
Nous éprouvons des difficultés en rapport avec la province du Kasai Central, car il y a une grande quantité de marchandises qui proviennent de cette province vers la nôtre. Il y a même des produits qui partent des villages environnants vers la ville de Chikapa. Pour le moment, il nous est impossible de nous en procurer suite à l'impossibilité de traverser cette rivière. On y a placé des pirogues qui nécessitent au préalable de payer aux pagayeurs pour la traverser. C'est ainsi que pour le moment, il nous est difficile depuis l'effondrement de cet ouvrage. Nous demandons au gouvernement central de s'impliquer rapidement pour trouver rapidement la solution à cette question, même de la part du gouvernement provincial, car chaque fois que nous payons des impôts, on nous rappelle que ces impôts et taxes nous sécurisent. Et maintenant, comme nous sommes insécurisés, qu'ils fassent rapidement ce travail afin de nous permettre de reprendre nos transactions.
Actualité internationale.
Joe Biden se déplace aujourd'hui mardi en Géorgie, un état dans l'escarcelle des républicains depuis 30 ans, mais que les démocrates espèrent gagner cette année 2020. Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude en ce moment dans les sondages. Vendredi dernier, la candidate démocrate à la vice-présidence, Harry, a mobilisé les électeurs afro-américains. Elle a ensuite rencontré des étudiants dans l'une des 4 universités noires historiques de la ville. Et puis, la Turquie préfère ignorer tout simplement l'accord militaire qui a été signé à Genève en Suisse vendredi dernier entre les deux parties libyennes opposées pour un cessez-le-feu immédiat et global. L'accord de Genève porte notamment sur le départ de tous les mercenaires étrangers dans un délai de 90 jours. Et quelques heures après la signature de cet accord de Genève, le président turc a affirmé qu'il ne pourrait retenir cette information. Son ministre de la Défense nationale a publié pour cela les photos des membres des forces de l'Ouest libyen à l'entraînement.
L'invité.
La grande cimenterie du Katanga, basée à Likasi dans le Haut-Katanga, produit désormais de la chaux. Sa production a été lancée ce lundi en présence du ministre de l'Industrie. Julien Paluku-Kaungia affirme que les entreprises minières importent annuellement 300 000 tonnes de la chaux qui constitue l'une des matières premières dans la production minière, ce qui implique selon lui la sortie des devises. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter l'usine dont vous avez inauguré le lancement de la production au Likasi?
Oui, c'est un honneur pour l'industrie congolaise. Ce jour, nous venons de lancer la production de la chaux, du nouveau four à chaux moderne, qui est une des filiales de la grande cimenterie du Katanga, basée effectivement à Likasi, dont l'objectif est de fournir la matière première qui est la chaux au secteur des mines, parce que plus de 300 000 tonnes de chaux étaient importées chaque année, et ça occasionner des sorties de devises vers l'extérieur pour finalement affaiblir l'économie locale. Très prochainement, nous aurons une deuxième usine qui va produire du ciment ici à Likasi.
Et cette entreprise, à quel genre de main d'œuvre?
Jusqu'aujourd'hui, nous sommes autour de 1200 employés locaux avec une projection de 2000 employés locaux lorsqu'ils auront fini la construction de la cimenterie, autour de 50 expatriés qui sont des experts chinois. Le constructeur de cette usine est le 12e producteur mondial de clinker. Le clinker, c'est une matière qui entre dans la composition de la fabrication du ciment. Au-delà d'être un expatrié, il tient compte des critères que nous avons fixés au niveau du ministère de l'Industrie, à savoir protéger et considérer la main-d'œuvre locale et au besoin ouvrir une école de formation professionnelle au sein de l'entreprise pour le transfert de la technologie de la Chine vers notre pays.
Est-ce que les entreprises minières locales seront suffisamment sensibilisées pour que ça provisionne en Likasi au lieu d'aller à l'étranger?
La vision du gouvernement, c'est de pouvoir stabiliser la production et ainsi prendre des mesures incitatives allant jusqu'à l'interdiction de l'importation de tous les produits que nous produisons localement. C'est-à-dire, nous avons été à Kolwezi, on produit du ciment. Aujourd'hui, nous sommes à Likasi, où on produit du ciment et de la chaux. Lorsque nous allons nous rendre compte que la demande locale est satisfaite par l'industrie locale, nous allons prendre un arrêté interministériel avec les collègues du commerce extérieur et des mines pour interdire les importations, parce que là, nous aurons gagné, en termes d'économie, près de 3 milliards de dollars l'an qui sortaient pour devoir enrichir les autres et créer des emplois dans d'autres pays. C'est donc une aubaine pour la RDC parce que le secteur industriel du Katanga nous permet de devoir gagner en investissement et en économie 3 milliards de dollars parce que nous protégeons l'industrie locale.
Et qu'en est-il de la qualité de la chaux qui est produite localement?
La qualité est très très excellente parce que c'est une usine moderne qui est la première en Afrique. J'ai eu à pouvoir suivre les explications techniques d'un technicien congolais qui a confirmé que c'est la première usine en Afrique centrale qui produit ce genre de chaux et des mains du ciment avec une spécificité même qui va jusqu'à 8 millièmes de millimètre de poudre. Donc la poudre est tellement fine que c'est parmi les usines modernes que nous avons en Afrique et spécialement basées à Likasi.
Monsieur le ministre, en même temps que vous encouragez les privés à investir dans les domaines de la production du ciment, mais ça paraît quand même paradoxal quand vous voyez l'état dans lequel se trouve la cimenterie des Louboudi, ce sont des vestiges. Est-ce qu'il y a aussi un programme pour relancer la cimenterie?
Lorsque je suis allé lancer la cimenterie Karilou à Kolwezi, j'ai envoyé une mission d'inspection à Louboudi, effectivement, pour que nous puissions envisager aussi la relance de la cimenterie. Et là, nous avons déjà un partenaire qui va faire une visite d'inspection, voir dans quelle mesure avec la Gécamines, cela peut être relancé. Comme la Gécamines est actionnaire majoritaire, nous devrions mettre à contribution le ministre du portefeuille pour que, ensemble avec lui, nous puissions définir effectivement les mesures de relance de la cimenterie et ainsi avoir presque 3 cimenteries dans cet espace à côté de celles qui sont en train d'être construites également à Kalemie pour permettre de satisfaire toute la demande locale et de l'espace Katangais et de l'espace Kivu, ainsi limiter les importations qui occasionnent des milliards de sorties de devises et ainsi affaiblir vraiment notre économie. C'est l'ambition du ministère de l'Industrie et nous pensons que si d'ici 2-3 ans, nous allons atteindre notre ambition et stabiliser notre économie par la réduction des importations, donc la sortie des devises.
À quand l'arrivée de ce nouvel investisseur à Louboudi?
Jusque-là, nous n'avons pas encore le temps. Vous savez, avec tout ce qu'il y a comme Covid actuellement, qui a perturbé presque tous les calculs que nous avions, mais également tous les bruits politiques. Vous savez que les investisseurs n'aiment pas les bruits politiques. C'est la raison pour laquelle, au niveau du ministère de l'Industrie, nous avons toujours voulu que, à côté de la volonté de devoir industrialiser le pays, puisse régner une stabilité politique qui permette et qui rassure les investisseurs de pouvoir venir chez nous.
Julien Falcou, je vous remercie.
Merci.
L'invité de Radio Okapi aujourd'hui, c'était le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, était interrogé par Jean Gandou. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.